Bonjour et bienvenue. Je vais juste informer les parents des 0 à 4 ans qu'il y a Minicel maintenant en bas, donc c'est tous les premiers dimanches du mois. Donc vous pouvez descendre avec les tout petits 0 à 4 ans. Voilà, je vais prier pour commencer ce culte. Dieu notre Père, sois le bienvenu parmi nous ce matin. Merci pour le privilège de nous réunir librement pour louer ton nom et venir écouter ta parole. Merci d'être spécialement auprès de nos frères et sœurs dans le monde qui sont persécutés pour leur foi. Veuille les fortifier, les aider à tenir bon et à leur faire ressentir ta présence. Merci de te tenir aussi auprès des personnes qui n'ont pas pu venir ce matin pour diverses raisons. Sois leur réconfort et accorde-leur ta paix. Père, nous te prions aussi pour la situation actuelle concernant tous ces virus dont on nous parle partout. Seigneur, nous te remettons maintenant toutes nos craintes, toutes nos peurs que cela peut susciter en nous. Nous voulons regarder à toi, Jésus, et à toi seul. Accorde la sagesse et le discernement à nos autorités pour la gestion de cette situation. Nous savons que tu as le contrôle sur chaque situation, que tu ne laisses rien au hasard, que tu tiens le monde entier dans tes mains. Alors nous nous attendons à toi, que ta volonté soit faite dans nos vies. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». C'est une exclamation bien connue du roi David, que vous avez déjà entendu, vous pouvez lire dans le psaume 122. Est-ce que c'est aussi la vôtre? Est-ce que vous êtes dans la joie de venir ce matin? Ça fait plaisir à entendre. Si on peut répondre oui, c'est que vous pouvez rencontrer le Seigneur, ressentir sa présence, que vous êtes content de rencontrer vos frères et sœurs dans Christ, qu'on peut écouter sa parole, on peut chanter ses louanges, on peut prier. Par contre, peut-être vous pouvez répondre non, peut-être vous n'êtes pas très content d'être ici, peut-être que c'est un peu forcé, peut-être que c'est une routine, peut-être parce que vous accompagnez quelqu'un. Peut-être que vous avez été déçu par une attente qui n'a pas été comblée, ou peut-être que vous êtes dans le deuil, dans la tristesse, dans l'amertume. Alors je prie que le Seigneur se révèle à vous ce matin, spécialement si vous êtes dans cette situation. Laissez de côté pour un moment les soucis du quotidien et concentrez-vous sur le moment présent de l'accueil du Seigneur lui-même dans ce lieu. Comme il est écrit dans Matthieu 18, 20, « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Salut les enfants. Salut les enfants. Ça va? Vous êtes contents d'être là ce matin? Ouais? Cool. Et j'ai une question pour vous les enfants. Est-ce que vous avez des personnages de dessins animés ou de jeux que vous aimez particulièrement? La Reine des Neiges, Steve McQueen, ah non, c'est quoi? Comment il s'appelle? Flash McQueen? C'est pas Steve McQueen? Ça, c'était notre époque! Ça, c'était notre époque! Vous avez Spider-Man, vous avez ce genre. Qu'est-ce que tu aimes? Astérix! Ah ouais, ça, c'est cool alors. Astérix, il a des super pouvoirs. On aime bien dans les personnages, des dessins animés, tout ça, avoir des personnages qui ont des super pouvoirs. Et souvent, en fait, les personnages qu'on admire, ils ont souvent le pouvoir de vaincre le mal. C'est quand même quelque chose qui revient souvent. Moi, mes enfants, quand ils étaient petits, ils aimaient beaucoup Mario et Sonic. Alors, ils jouaient à Mario et Sonic, ils se déguisaient comme eux et tout. C'était cool aussi. Après, on peut aussi admirer des chanteurs, des chanteuses, des youtubeurs, comme maintenant, plus actuels. Et les enfants, comment est-ce qu'on apprend à ressembler aux personnages qu'on aime? Comment est-ce qu'on peut... qu'est-ce que vous faites comme eux? Vous jouez comme eux? Vous vous déguisez comme eux? Vous regardez des films? En principe, on regarde des films ou des séries, on écoute les chansons, et on s'imbibe du personnage. Hein. Donc tout ce qui met en scène le personnage, on essaye de s'habiller comme lui, de penser comme lui, comme elle, d'essayer de lui ressembler, s'imprégner de sa vie, on parle comme lui, on danse comme lui. Alors, j'ai une question pour tout le monde ici. À qui est-ce que vous aimeriez ressembler ? À qui est-ce qu'on aimerait ressembler ? À nos parents ? Ou pas ? À notre voisine, à notre voisin, à notre meilleur ami, à notre prof, à une célébrité, à un leader politique, à Jésus ? Est-ce que quelqu'un aimerait ressembler à Jésus ? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Parce qu'on peut travailler à ressembler à Jésus en nous imprégnant de sa personne, de ses attitudes, de tout ce qu'il a fait et dit en lisant la Bible, la parole de Dieu. Et vous, les enfants, vous avez une Bible à la maison ? Est-ce que vous avez une Bible à la maison ? Oui ? Ou chez les grands-parents, chez les parents, chez les oncles et tantes ? Vous pouvez demander à vos parents, à vos grands-parents de vous lire la Bible avec vous. Et puis demandez-leur spécialement les histoires où Jésus est en scène, ou ce qu'il fait, ce qu'il dit, comment il se comporte, comment il aimait les gens. Ça donne envie de lui ressembler quand on lit ses histoires, d'avoir le même amour qu'il avait pour les gens, de quelque origine qu'il soit, spécialement envers ceux qui étaient mis de côté, ceux que personne ne voulait côtoyer. Est-ce que dans votre entourage, vous avez des gens, des enfants qui sont mis de côté à la récréation ou à l'école ? Vous avez peut-être quelqu'un avec qui personne ne veut jouer. Eh bien, c'est vers ceux-ci que Jésus serait allé. Alors, n'ayez pas peur d'aller vers eux, de leur demander leur nom, juste un regard, un sourire, une parole gentille. Juste le fait de demander comment ils s'appellent ou juste un regard peut faire le plus grand bien. Et c'est ça, ressembler à Jésus, c'est aller vers les autres. Alors posez-vous la question dans votre voisinage, à l'école, au travail, à l'Uni, vers qui irait Jésus ? On peut lire dans Jean 13, 34-35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ce qu'on appelle l'amour en action. Aller vers mon prochain rempli de l'amour de Jésus, sans préjugés, sans jugement, mais avec son regard et son amour. Et je pense que pour faire cela, chaque jour, nous avons besoin de démarrer notre journée chaque matin, en priant le Seigneur pour notre journée, pour qu'il nous accorde sa sagesse et son discernement pour toutes les rencontres que nous ferons, pour qu'il puisse être à l'œuvre au travers de nous. Et pour les parents, je vous encourage à prier avec vos enfants le matin avant de partir à l'école. Pas seulement, moi je faisais, quand ils étaient partis, je priais pour eux, mais c'est vrai que c'est encore mieux de prier avec eux avant le départ à l'école. Juste 30 secondes, ça ne prend pas longtemps, juste pour qu'ils sentent qu'on est avec eux. Les journées sont souvent difficiles à l'école, ils se rendent compte beaucoup de l'adversité, des choses qu'ils entendent, qu'ils doivent faire la part des choses. Et vraiment de savoir qu'on est avec eux et que le Seigneur est présent dans leur quotidien aussi, à l'école. Et pour lui témoigner son amour, on va le louer en chantant « Je loue ton nom, Éternel ».
Je vous invite à me lever, qu'on puisse louer ce super-héros qu'on a. C'est vrai que j'aime bien cette image, c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir ce grand Dieu qui peut tout faire et qui s'est donné pour nous. Je vous invite à vous lever aussi, les enfants. On se lève tous. Il y aura des gestes avec, donc il faut la juste suivre. Sylvia Thierry, c'est « Je loue ton nom éternel ».
Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie. toi tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel.
Tu viens du ciel
sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel.
Je loue ton nom éternel.
Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et de nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Lève-toi, mon âme, pour le rencontrer. Et avec les anges, viens le célébrer. Oh, Dieu de lumière, nous voulons te lever et dans tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre.
Seigneur, merci pour ces enfants qui sont là. Je te demande de les accompagner, de les rencontrer ce matin, encore une fois. Je te remets les moniteurs aussi, qui puissent être aussi renouvelés dans leur dans leur préparation aussi, dans tout ce qu'ils font pour ces enfants. Je te les remets vraiment dans tes mains. Amen. Vous pouvez y aller. Et que nous, on puisse continuer dans ce temps de rencontre avec Dieu aussi, notre Seigneur, notre Papa. Je viens dans ta présence.
Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges.
Je viens dans ta présence,
Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint. l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer, toi seul et digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu es ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes pas.
Avant le message qui sera apporté par Célina, nous allons partager le repas du Seigneur. En mourant sur la croix à notre place, Jésus a pris sur lui tous nos péchés. Il nous offre le pardon, l'espérance, un nouveau commencement, et cela à chacun d'entre nous, sans exception. C'est à nous de saisir cette chance qui nous est offerte gratuitement. Nous n'avons qu'à dire oui au Seigneur et merci. Une phrase m'a interpellée dans un livre que j'ai lu, écrit par Charles Colson. Il dit « L'évangile doit d'abord être la mauvaise nouvelle de la conviction de péché avant d'être la bonne nouvelle de la rédemption du salut. » Je vous la répète juste. L'évangile doit d'abord être la mauvaise nouvelle de la conviction de péché avant d'être la bonne nouvelle de la rédemption du salut. Venons donc à lui avec un cœur repentant et demandons-lui son pardon. Acceptons la grâce gratuite qu'il a offerte à chacun de nous. Et là, nous pourrons dire avec l'apôtre Paul, « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Pour introduire la Sainte Cène, qui représente le corps et le sang de Jésus qui a donné sa vie pour nous à la croix, je voudrais lire dans Romains 5, au verset 6 à 11. Romains 5, verset 6 à 11. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour les gens mauvais au moment décidé par Dieu. Déjà, pour une personne juste, on ne serait guère prêt à mourir. Pour une personne qui fait le bien, on aurait peut-être le courage de mourir. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, et pourtant, nous étions encore pécheurs. Maintenant, son sacrifice nous a rendus justes. Alors c'est sûr, le Christ va nous sauver aussi de la colère de Dieu. Oui, quand nous étions ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Puisqu'il nous a réconciliés, alors c'est sûr, Dieu va aussi nous sauver par la vie de son Fils. Et ce n'est pas tout. Nous sommes fiers de Dieu à cause de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a maintenant réconciliés avec Dieu.
Je lis l'institution dans Luc 22. Et quand ce fut l'heure, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et pour la coupe, il fit de même après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versée pour vous. » Seigneur, merci pour la vie que tu nous as donnée par ton sacrifice. Qu'au travers de ce repas, nous puissions nous souvenir de tout ce que tu as fait et qu'au travers de notre vie, nous puissions être un témoignage de la tienne et de ton amour pour nous. Amen. Vous trouverez du jus de raisin dans les gobelets roses et le vin dans les transparents. Pour la coupe, elle ne circulera pas aujourd'hui pour des raisons évidentes de sanitarité, je ne sais pas comment on dit. Donc voilà. Pendant le temps où les éléments vont circuler, vous pourrez prendre un moment de silence et de prière courte, si cela vous dit, et on finira ce temps avec un nouveau chant.
Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Aide-nous à la comprendre avec l'aide de ton Saint-Esprit. Ouvre nos cœurs pour la recevoir et la mettre en pratique. Aide-nous à te ressembler toujours davantage chaque jour, à te laisser toujours plus de place dans nos cœurs. Merci de bénir Célina, de la remplir de ton Saint-Esprit, et que tu puisses nous parler au travers d'elle. Remplis-la de ta paix. Amen.
Bonjour à chacun, j'espère que vous allez bien. Que la paix soit avec vous. Je vous souhaite la paix, parce que ce matin, nous allons parler du conflit. Nous allons réfléchir à la place du conflit dans nos relations avec les autres et avec Dieu. Et le conflit, en général, on n'aime pas ça. On cherche souvent à le fuir. Quand une dispute explose, on peut être bouleversé. Mais le conflit est tout naturel dans les rapports humains. Je vous propose d'aller explorer, nous intéresser et étudier sous différents aspects une relation conflictuelle. C'est un conflit important qui va survenir entre deux amis. Entre un disciple et son maître, entre Pierre et Jésus. Je vais lire dans Marc 8, les versets 27 à 33. Jésus sortit avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe. En chemin, il se mit à demander à ses disciples, « Au dire des gens, qui suis-je ?» Ils lui dirent, pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes. Lui leur demandait, « Et pour vous, qui suis-je ?» Pierre lui dit, « Toi, tu es le Christ. » Et il les rabroua pour qu'ils ne disent rien à personne à son sujet. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et qu'il se relève 3 jours après. Il disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer. Mais lui se retourna, regarda ses disciples et rabroua Pierre. « Va-t'en derrière moi, Satan !» lui dit-il. « Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » En chemin pour Césarée de Philippe, une grave dispute éclate. Ce passage de Marc 8 est une charnière dans la construction du récit de l'Évangile. Jésus en a fini avec la Galilée. Les gens ont vu beaucoup de miracles et beaucoup n'ont pas compris ce que Jésus faisait et disait au travers de ses prodiges. Beaucoup de choses s'étaient produites durant plusieurs mois où Jésus essayait d'enseigner des choses fondamentales sur la loi, sur le fait que Dieu est venu chercher le cœur des humains et que ceux-ci n'ont pas à se cacher derrière des rituels ou des soi-disant bonnes actions. Mais à présent, les choses doivent aller de l'avant. Plus de temps à perdre. Jésus doit absolument transmettre à ses disciples le cœur de sa mission. On sent en lisant Marc que les choses vont aller de plus en plus vite et la tension augmente. La tension, c'est déjà une des premières caractéristiques qui favorise le conflit. Parce qu'il y a du stress. Il y a des choses majeures qui se produisent et qui viennent bouleverser les relations. Pour Jésus et Pierre, la tension est sur le temps qui passe vite, voire même trop vite. Jésus sait qu'il doit passer à l'étape supérieure. Il sent aussi peut-être que ses disciples sont lents à comprendre. Et la tension est aussi du côté de Pierre. Toute la région vit dans un climat tendu d'insurrection et de révolte en tout genre pour récupérer le contrôle sur la Palestine. Et évidemment, Pierre, qui est un tout jeune homme à l'époque, vit du rêve de voir son pays libre, hors de la domination de Rome et de Hérode. Pierre est intrépide. Pierre est plein de fougue et ça bouillonne en lui. Il veut voir le libérateur promis venir et rendre son rêve réalité. C'est urgent, ça presse. La tension, c'est souvent ces causes extérieures qui viennent mettre une pression sur nous. Le travail, la charge des études avec la réussite, un agenda trop plein, des pressions financières, la crise écologique, le temps qui n'attend pas sur nous et après lequel on court. Nous met dans une tension constante. Et en plus de la tension, vient s'ajouter l'incompréhension. La question de Jésus, qui suis-je aux yeux des autres ? Et surtout, qui suis-je à vos yeux ? Cette question va mettre en lumière le manque de clairvoyance des disciples sur la personne de Jésus. Et c'est la réponse de Pierre qui va déclencher la dispute. Jésus réprouve avec force ses disciples. Le ton est carrément monté. On pourrait dire que Jésus engueule ses disciples, pardonnez-moi l'expression. Peu de temps avant ce passage, il y eut une drôle de guérison où Jésus s'y est pris par deux fois pour guérir un homme aveugle. Cette guérison, à double temps, voulait souligner le fait de ne voir que partiellement la réalité un temps pour finalement comprendre et voir les choses pleinement. Et c'est ce qu'il se passe pour Pierre quand il dit à Jésus « Pour moi, tu es le Christ. Pour moi, tu es le Messie. » Pour Pierre, comme pour tant d'autres à son époque, le Messie, c'était oui, un roi guerrier, mais surtout quelqu'un de fort, quelqu'un d'influent qui arriverait à se constituer une armée assez solide pour prendre le pouvoir sur l'armée romaine. Et comme vous le savez, ce n'est absolument pas ce que Jésus est venu faire. C'est la raison pour laquelle il va être très sévère avec ses disciples. Il ne faut surtout pas qu'ils viennent colporter cette idée-là du Messie, car la confusion pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la suite de la mission. L'incompréhension devient plus visible parce que la relation est en train d'évoluer. Nous sommes, comme je vous l'ai dit, dans un moment clé dans le récit de Marc. Jésus le sait, et voilà pourquoi il va devoir dévoiler quelque chose de plus à son sujet. Il communique. Et comme on sait, la communication est très importante dans une relation. La relation entre Jésus et Pierre prend à ce moment une autre dimension. Elle évolue et elle va devoir devenir plus mature. Quand Jésus dévoile ce secret qu'est sa mort et sa résurrection, il le dit à ses amis. Il le dit à ceux qui devront être là pour l'accompagner jusqu'à ce moment tragique. Ils devront s'y préparer. Ils devront affronter toutes ces choses. Et surtout là, sur ce chemin, ils devront abandonner une certitude qui les habite depuis toujours, sur Dieu, sur comment il agit pour libérer son peuple. Mais abandonner une croyance aussi forte pour Pierre est inenvisageable au moment où Jésus lui dévoile son secret. Et la dispute repart de plus belle. Pierre va s'en prendre à Jésus. Jésus va s'en prendre à Pierre et lui dire ce terrible « arrière de moi, Satan ». Dans la pensée de l'époque, Satan, ce n'était pas une bête à cornes toute rouge. C'était une sorte d'esprit d'accusation, de mise à mal du plan de Dieu. Et quand Pierre s'est soulevé contre Jésus, il a mis en accusation le plan divin du salut pour le monde. La pensée de Pierre déviait de celle de Jésus. Mais l'attitude de Pierre est toute humaine et Jésus le lui dit. Ta pensée vient des hommes et non de Dieu. Ce que Jésus s'apprête à vivre n'est pas à la portée d'un guerrier rebelle qui veut faire un massacre de plus dans le pays. Ça, ce sont les affaires humaines. Jésus, lui, s'occupe bel et bien d'une affaire divine, d'un plan qu'aucun humain au monde n'aurait jamais imaginé. Et le conflit ici est capital, car il va permettre que les choses se déplacent. Des croyances profondes et très ancrées en Pierre vont peu à peu, et oui, très lentement, commencer à bouger à partir de cette dispute. Le conflit est un indicateur de quelque chose qui se passe à l'intérieur. Nous sommes des êtres vivants qui évoluons. L'enfant devient ado, l'ado devient adulte. L'adulte se réalise avant de prendre petit à petit le chemin vers le crépuscule de sa vie. Nous changeons constamment et c'est normal que nos rapports les uns aux autres changent aussi. Les conflits portent souvent sur la manière de voir les choses, de voir l'autre, mais aussi de se voir soi. Et c'est là qu'il est important de ne pas louper quelque chose de fondamental. Le conflit toque à notre porte pour nous dire « Eh, viens voir, il y a quelque chose qui se passe et c'est intéressant que tu y mettes tes yeux. » Mais le conflit, on ne l'aime pas parce qu'il cherche justement à nous remettre en question. Et c'est tout le dilemme de la paille et de la poutre dans l'œil dont Jésus parle en Matthieu 7. Je pense que ce genre de récit nous encourage à ne pas fuir le conflit, mais à l'accueillir et prendre du temps pour comprendre un mécanisme relationnel, mais aussi personnel. Et puis, évidemment, il y a des limites au conflit. A-t-on le droit de se mettre en colère? A-t-on le droit d'être violent physiquement, moralement et verbalement? Et je pense que la limite est justement sur ce point-là, le point de la violence. Cela ne doit pas être franchi. L'acceptation du conflit, sa prise en charge, permet de ne justement pas ajouter des tensions inutiles et qui peuvent, à un moment donné, déborder par de la violence. Lorsque nous voulons aller de l'avant dans une relation conflictuelle, nous avons sans doute besoin de lâcher quelque chose qui nous paraît vital, important. Et pour pouvoir lâcher quelque chose qu'on croit de précieux, nous avons besoin d'avoir confiance, d'avoir la foi que les choses vont bien se passer, même si on ne sait pas comment. On sait juste qu'elles sont entre les mains de Dieu et ce sont les meilleures. Et c'est ce que Jésus va offrir à Pierre. Jésus ne va pas laisser Pierre avec cette annonce terrible de sa mort et ce fameux « arrière de moi, Satan ». Quelques jours après la dispute, il va l'emmener, lui et deux autres disciples, tout en haut d'une montagne où quelque chose de mystérieux, de lumineux va se produire. La transfiguration de Jésus en présence de Élie et de Moïse. Et ce moment va contribuer à fonder une nouvelle perception de Jésus en Pierre. Pierre est dans un processus de maturation dans sa relation avec Jésus. Et pour cela, il a dû rentrer en conflit avec Dieu. L'idée même que l'on puisse oser se mesurer à Dieu pour lui faire des reproches peut paraître prétentieux, orgueilleux. Et je dois bien vous l'avouer, c'est ce qui m'est arrivé. Ce dont je vais vous parler, c'est de quelque chose que j'ai vécu. Quelque chose que j'ai vécu avec ma perception. Donc ce n'est pas de la théologie, ce n'est pas une norme générale sur comment Dieu parle ou il agit. Cela faisait environ 5 ans que j'avais une vie de foi engagée dans un milieu évangélique. J'avais 23 ans et j'avais sans doute cru comprendre beaucoup de choses sur Dieu. Et pourtant, tout allait être renversé. Un jour d'automne, mon père est venu m'annoncer la récidive de son cancer de la gorge. Je le redoutais ce moment. 6 années successives de maladies graves, je savais au fond qu'un jour il viendrait me voir pour me dire « j'ai de nouveau le cancer ». Ma famille et moi, nous sommes tous allés voir son médecin, mais cette fois, les nouvelles étaient très mauvaises. « Monsieur, on pourrait vous retirer toute la langue, on lui en avait déjà enlevé une partie. On pourrait vous faire chimio et rayons, mais ça ne serait que repousser l'inévitable. Il vous reste environ 6 mois. » Mon père s'était fait une raison, mais moi pas. J'étais chrétienne. J'étais la seule de ma famille engagée dans la foi. Et surtout, la guérison de Dieu, j'en avais tellement entendu parler. Et si c'était pour mon père ? Ma mission était de prier et de tout faire pour qu'il reçoive cette guérison. Première étape, aller le supplier de se rendre au groupe de prière pour les malades qui se réunissait dans mon église. Je suis allée le voir. Et vous savez, un père ne refuse pas grand-chose à sa fille, surtout quand elle pleure. Alors il y est allé. Et il m'a dit ensuite avoir apprécié la prière et qu'il pensait y retourner. J'étais un peu soulagée, mais l'inquiétude était là. Et cette inquiétude n'a fait que grandir au fur et à mesure où je voyais sa santé se détériorer et les appareils médicaux s'accumuler autour de lui. Mais je continuais de prier fort et souvent. On m'avait aussi dit que ça dépendait de ma foi. Crois seulement et ça se réalisera. S'il ne guérit pas, c'est que tu n'auras pas eu assez la foi. Mais quand le cancer commence à faire des métastases, comment ne pas douter ? Avec ma famille, nous avions organisé des tournus pour rester auprès de lui. Et un jour où c'était notre tour, à Joël, mon mari et à moi, nous nous étions rendus chez mes parents. Mais mon père avait fait de la fièvre toute la nuit. Alors, on a appelé SOS médecin qui nous a conseillé de nous rendre aux urgences. Il faisait sans doute une infection. Et convaincre mon père d'aller perdre son temps dans une salle d'attente au HUG n'était pas facile. Alors après plusieurs minutes de grosses négociations, on s'est mis tant bien que mal en route pour l'hôpital. En chemin, ma prière avait changé. Elle n'était plus une prière pour la guérison, mais la prière d'une fille désespérée de voir son père mourir sans que Dieu ne fasse quoi que ce soit. Cela ressemblait à ceci. « Seigneur, je ne te demande plus la guérison. C'est une question de vie ou de mort. Fais qu'un médecin prenne soin de lui rapidement. » Parce que c'est insupportable de le voir souffrir à ce point-là. Seigneur, si tu existes, si tu es amour, fais quelque chose parce que jusqu'à présent, tu n'as rien fait. Et si tu ne fais rien, alors que devrais-je en conclure ? Que tu n'existes pas ou alors que ton autre sort ne t'intéresse pas ? Nous sommes arrivés aux urgences et mes parents sont restés attendre le médecin alors que Joël et moi devions nous éclipser 1 heure ou 2 et revenir. Et en quittant l'hôpital, je me souviens m'être dit « Si en revenant, il est toujours là dans cette salle d'attente, alors je ne crois plus en Dieu. » Lorsque nous sommes revenus 2 heures après, il était toujours là, sur son brancard au fond de la salle d'attente. Et au bout de 4 heures et demie d'attente, mon père s'est réveillé et a dit à ma mère « Si tu ne vas pas chercher la voiture tout de suite, je rentre à pied. » Et il les aurait fait les 15 kilomètres jusqu'à la maison. Alors pas le choix, il fallait le ramener. Et ma foi, bah, elle s'écroulait. J'étais en colère contre Dieu, si on peut être en colère contre quelqu'un en qui on ne croit plus. Et la chose qui était aussi difficile à cette période, c'était que Joël et moi, on était responsables de la jeunesse dans notre église. On était censés guider les jeunes dans la foi, les accompagner. Mais moi, je me sentais comme une intruse, comme une hypocrite, et surtout, je n'arrivais plus à parler de Dieu. Les jours ont passé, les semaines aussi. Et un jour, on a dû se rendre dans un séminaire de formation pour les responsables jeunesse de la Suisse romande. J'étais obligée d'y aller, et c'était l'horreur. Et je n'ai fait que pleurer et m'enfuir de l'église toute la journée en détestant chaque parole des orateurs et chaque chant des musiciens. À la fin de cette journée de formation, je ne vous explique même pas dans quel état j'étais. Et puis, il y a eu le dernier temps de louange et enfin, on pouvait rentrer à la maison. Mais dans ce dernier temps de louange, il y a eu ce chant, ce fameux « Béni soit ton nom ». Vous savez celui qui dit « Béni soit ton nom » quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom, sur la route sommeil de souffrance, et s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Je lisais ce chant, et évidemment que j'ai haï chaque parole de ce chant. Vraiment, du plus profond de mes tripes. Et c'est là qu'une chose très difficile à expliquer est arrivée. En un instant, j'ai eu cette conviction absolue que Dieu s'était assis à côté de moi et qu'il me disait « Tu vois ce chant, Célina, je suis sûre que tu n'es pas capable de te lever et de me le chanter. » Et je vous l'ai dit, j'avais tellement prié pour mon père, pour sa guérison, que cette pensée m'a encore plus mis en colère. Alors je me suis levée et je l'ai chantée pour prouver à ce Dieu qui n'assurait tellement pas que moi je pouvais faire ça. Je devais avoir l'air d'une dingue quand j'y pense. Et après ce chant, je me suis rassise et intérieurement j'ai dit à Dieu, « Ben quoi, je l'ai fait. Ça change quoi? De toute façon, il va mourir. » En rentrant à la maison, je lisais les quelques messages que j'avais reçus sur mon téléphone dans la journée et il y en avait un de ma mère. Je ne sais d'ailleurs toujours pas pourquoi elle me l'a envoyé vu qu'elle ne croit pas plus en Dieu que ça. Mais ce message disait en gros ceci. « Ce soir, j'ai parlé avec ton père de ces moments de prière qu'il vit dans ton église. » Et il m'a dit ceci. « Je crois plus en Dieu qu'en la guérison. » « Je crois plus en Dieu qu'en la guérison. » Et ce message, c'était comme une immense claque en pleine figure. Ce genre de claque qui remet les idées en place. Comment avais-je pu me tromper à ce point-là? Comment n'avais-je pas compris que c'était cette rencontre avec Dieu qui était essentielle? Un mois plus tard, le 29 février 2008, mon père est mort. Cela fait 12 ans. Cette nuit-là, mon âme s'est déchirée et une partie de mon monde a cessé d'exister avec lui. Face à la mort, face à l'inerte, on est forcément violemment ébranlé et remis en question. Mais malgré la douleur, j'avais cette impression que la mort n'était pas la fin et que quelque chose de plus grand se dessinait autour de nous. Il y a quelque chose de plus grand et de plus fort que la mort. Et ce que j'ai vécu au cœur de cette épreuve m'a conduit à entreprendre l'année suivante des études de théologie. Et me voilà après quelques autres péripéties devant vous aujourd'hui à faire mon stage pastoral. Le conflit avec Dieu m'a permis de mesurer mes certitudes, mes revendications, mais aussi mes craintes face à la grandeur de Dieu. Notre échelle de valeur ne peut qu'être modifiée quand on arrive à ce point de désespoir qu'on décide de s'en prendre à Dieu. Et c'est ce qui était arrivé aussi à Pierre. Cela a commencé sur ce chemin de Césarée de Philippe. Mais plusieurs récits dans la Bible nous montrent que ces convictions sur Jésus, sur Dieu, n'ont eu de cesse d'être éprouvées jusqu'à ce que Pierre devienne cet apôtre capable d'annoncer le message de la vie au péril de la sienne. Pour finir ce temps de message, je vous laisse justement les mots de Pierre dans sa première épître. Il nous invite à croire en nos relations et à nous battre pour que l'amour et la paix puissent y régner. 1 Pierre 3, 8 à 11. Enfin, ayez tous les mêmes dispositions d'esprit et les mêmes sentiments. Aimez-vous comme des frères et des sœurs, avec affection. Soyez bienveillants et humbles les uns à l'égard des autres. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Au contraire, réagissez en bénissant, car c'est une bénédiction que Dieu a promis de vous accorder en héritage quand il vous a appelé. En effet, voici ce qui est écrit. Celui qui veut aimer la vie et connaître des jours heureux, qu'il se garde de médire, qu'il se garde de prononcer des paroles de ruse, qu'il se détourne du mal, qu'il pratique le bien et qu'il recherche la paix avec persévérance. Que ces paroles puissent nous porter dans nos relations, avec nous, avec les autres, et avec Dieu. Amen.